On accueille Benoît maintenant au 39-21. Bonsoir Benoît.
Bonsoir Olivier.
Bonsoir. D'où nous appelez-vous Benoît et quel âge avez-vous ?
Alors ce soir je vous appelle depuis la région parisienne et j'ai 24 ans.
D'accord. Qu'est-ce qui vous amène ? Dites-moi Benoît.
Eh ben, je suis avec vous puisque ce 1er décembre, c'était la journée mondiale de la lutte contre le sida. Et c'est un combat que j'ai rejoint moi très récemment puisque le VIH est arrivé dans ma vie il y a un petit peu plus d'un mois et demi maintenant, bientôt deux mois.
D'accord. De quelle manière est-il arrivé dans votre vie ? Est-ce que vous ne vous attendiez pas à cela, bien sûr ?
Non, c'était inattendu. Depuis quelques mois, j'étais souvent malade, souvent enrhumé, pas mal de fièvre. Mmh. Et lors d'un rendez-vous chez le médecin, il y a quasiment deux mois, j'en ai profité pour demander l'ordonnance pour aller faire les fameux tests MST-IST. En plus, étant dans une nouvelle relation depuis quelques mois avec mon compagnon, c'était le bon moment. Et puis, trois jours après, la nouvelle est tombée, positif au VIH.
D'accord. Comment est-ce que vous avez vécu dans un premier temps cette annonce, Benoît ?
C'était compliqué. C'était compliqué parce que ce qu'il faut peut-être expliquer pour bien comprendre, c'est le déroulement des événements. C'est que le lundi matin, je suis chez mon médecin, il me prescrit cette ordonnance. Directement, je vais au laboratoire effectuer la prise de sang pour faire les tests. Et puis là, l'attente commence. Et quand le soir même, je n'ai pas encore de résultats, je commence à m'inquiéter parce que je sais que c'est des résultats qui arrivent assez rapidement, mmh, normalement.
Oui.
Après, on se dit qu'avec le Covid en ce moment, bah, les laboratoires sont assez chargés. Le lendemain, on commence réellement à se poser des questions. Et puis j'avais l'accès à Internet pour regarder les résultats en ligne. Et là, je vois apparaître sur les résultats le nom d'un test qui s'appelle Western Blot. Mmh. Et forcément, quand on est dans l'attente, et ben on va chercher sur Internet à quoi ça correspond. Et là, je découvre qu'il s'agit d'un test de confirmation VIH. Donc là, la panique commence à s'installer un petit peu, beaucoup d'angoisse. Et puis, j'échange pas mal avec mon compagnon qui tente de me rassurer en me disant que c'est peut-être la procédure normale pour les tests dans ce laboratoire. Et puis, le lendemain, donc on est deux jours après les tests, toujours pas de nouvelles. Et donc là, je décide d'appeler le laboratoire pour tenter d'en savoir un petit peu plus.
Oui.
Je sens que la personne qui me répond est un petit peu embarrassée. Donc là, je commence à me dire que ça sent mauvais. Et puis là, on passe le biologiste. Donc, quand on me dit qu'on passe le biologiste, et ben là, je comprends qu'il y a quelque chose.
Ouais.
Et là, le biologiste m'annonce au téléphone. Donc, moi, je suis sur mon lieu de travail à ce moment-là, que je suis positif au VIH. Et donc là, je me retrouve avec cette information dans un coup de fil qui a duré deux minutes. Et puis, sans plus rien derrière, sans appui médical derrière, sans personne pour répondre à mes questions derrière. Et donc tout seul finalement, donc je pars de mon travail et puis là je rentre chez moi et là c'est un peu le monde qui nous tombe dessus parce que
oui.
Bah on est tout seul face à cette info.
Personne ne vous a dans un premier temps accompagné.
Non,
on ne vous a pas proposé un accompagnement psychologique pour
ça. Non, c'était le vrai problème, c'est que après en discutant avec le corps médical qui m'accompagne aujourd'hui. La nouvelle n'aurait jamais dû m'être annoncée comme ça par téléphone. On ne sait pas ça, en fait. Normalement, il y a une procédure. C'est un médecin qui doit nous recevoir. C'est notre médecin qui doit nous recevoir pour nous expliquer les choses et pour tout de suite nous informer et nous rassurer. Et moi, ça a été la difficulté. C'est que le médecin, je ne l'ai vu que le lendemain matin, le médecin généraliste. Et l'infectiologue, je ne l'ai vu que quasiment trois semaines après. Et donc c'est toute une période où on a qu'Internet pour nous accompagner en fait pour répondre à nos questions et c'est problématique et j'ai des conseils mais tout le monde le fait et c'est naturel, j'ai des conseils d'aller se renseigner sur Internet quand il nous arrive ce genre de choses ou en tout cas de se tourner vers des structures spécialisées parce qu'on lit tout et n'importe quoi et voilà, donc ce qu'on a besoin dans un premier temps c'est d'être rassuré et accompagné.
Oui, bien sûr. Et c'est très étonnant ce que vous me racontez parce que il y a eu une grande résonance hein, quand le sida est arrivé dans les années 80. Mais l'image de cette maladie terrifiante hein, au début est restée quand même imprégnée dans les esprits. Et elle s'est transmise, hein, cette image, malheureusement, parce qu'on va venir après, je suppose, dans votre témoignage, depuis un mois et demi, vous avez dû vous renseigner, tel que j'entends le jeune homme auquel je parle ce soir. Vous êtes quelqu'un que je sens curieux. Donc, et puis quand il s'agit de sa peau, je pense qu'on est 100 fois plus curieux d'un seul coup. Et on parlera bien évidemment de la condition des malades aujourd'hui. En tout cas, pas des malades, des gens qui sont séropositifs. Il faut bien faire la différence, puisque séropositif, on le verra, ne veut pas dire développer la maladie et être malade. Mais dans un premier temps, c'est très étonnant que, oui, il y a eu une erreur de fait. Vous en convenez, il y a eu une erreur de fait. Ce biologiste n'aurait jamais dû vous annoncer ça comme ça.
C'est clair, et me laisser après même pas deux minutes de coup de fil.
C'est dingue.
C'est-à-dire que moi, ce qui m'aurait... À la limite qu'on me le dise, moi, c'est une chose, je l'attendais de toute façon. Ça faisait 24 heures que j'y pensais. Il fallait que je le sache à un moment donné. En revanche, ce qu'il aurait fallu, c'est soit qu'on demande à mon médecin de me contacter tout de suite, ou qu'on me donne un numéro de téléphone, ou qu'on me donne des indications.
Bien sûr.
Enfin, qu'on me guide. Moi, je suis sorti de cet appel, j'étais dévasté tout seul, et je ne savais pas quoi faire.
Non, mais c'est incroyable ce que vous racontez. Partant de cette situation, qu'avez-vous fait en fait? Je suppose qu'il ne faut pas faire, c'est chercher sur Internet, parce qu'il y a tout et n'importe quoi, mais quand on est tout seul, qu'est-ce qu'on fait? On regarde sur Internet?
Alors, on regarde sur Internet. Dans un premier temps, moi, j'ai appelé mon compagnon pour lui dire tout de suite. Il savait que j'avais fait les tests. Lui aussi était inquiet de son côté, parce que ça commençait à faire un petit moment qu'on attendait les résultats. La première réaction, c'est que j'ai appelé mon compagnon et même pas, je lui ai envoyé un message. Je ne l'ai pas appelé, je lui ai envoyé un message. Et en lui disant, écoute, je suis positif au VIH et je préfère qu'on arrête là parce que je ne veux pas te faire subir ça. Et ça a été la réaction à chaud. Ça a été le craquage sur le moment. J'ai appelé ma maman pour lui annoncer. Qui a très bien réagi, qui pour le coup était très rassurante, qui était plutôt bien informée sur le VIH aujourd'hui, et qui du coup a eu les bons mots et me rassurer peut-être pas parce que j'étais dans un état compliqué, mais qui a su apaiser un petit peu les choses. Et mes parents n'habitant pas à côté de chez moi, il fallait que j'en parle à quelqu'un. En vrai, il fallait que je voie quelqu'un. Enfin, je ne pouvais pas rester tout seul. Et du coup, je l'ai annoncé à deux amis. Quelques minutes après, je les ai rejoints, je leur ai annoncé. Et c'est après que tout le monde m'a dit, mais rappelle ton compagnon, tu peux pas lui faire ça. C'est à lui de décider, c'est à lui de choisir. S'il a envie de t'accompagner dans ce combat ou pas. Et c'est vrai, et c'est ce que j'ai fait, et tout s'est arrangé le soir même, puisque lui a décidé de m'épauler et de m'accompagner.
Je pense qu'aujourd'hui, vous allez être dans la sensibilisation, en tout cas, vous allez poser des questions, être accompagné, et en étant accompagné, on finit souvent par acquérir une connaissance de ce virus. Et puis surtout des soins hein, que nécessite à vie ce virus. Et donc, de par cette situation, vous allez être amené aussi à communiquer avec d'autres arrivants, hein, des jeunes, des moins jeunes. Est-ce que vous faisiez attention? Est-ce que vous aviez l'impression de faire tout ce qu'il fallait? Quel est votre point de vue là-dessus?
En fait, je suis assez partagé sur cette question. Moi, très clairement, j'ai toujours fait attention sur, on va dire, sur les rencontres occasionnelles. Moi, là, c'est sur une relation à long terme. C'est un problème de confiance sur la long terme qui a fait que j'ai le VIH aujourd'hui. Après, très franchement, je fais attention inconsciemment, puisque je fais partie d'une génération où on a quand même été assez sensibilisé au VIH, au collège, au lycée. Et en même temps, on entend aujourd'hui qu'on vit très bien avec le VIH, et je pense que peut-être, du coup, on a tendance inconsciemment à avoir moins peur du VIH, et du coup, à le prendre un petit peu à la légère. Moi, la sensation que j'ai aujourd'hui, c'est que j'en avais pas peur et que, du coup, certes, je faisais attention parce que c'est normal de faire attention, mais sans y penser forcément.
D'accord. Aujourd'hui, en fait, un mois et demi après, ouais. D'abord, vous êtes passé par quel état ? Parce que vous m'avez parlé de l'état tout de suite, l'état de solitude, ensuite votre discussion avec votre maman, ensuite avec votre conjoint. Est-ce qu'il y a eu un choc dépressionnaire ? Est-ce que vous avez perdu le sommeil ? Est-ce que, parce que c'est quelque chose, c'est un vrai choc que vous avez vécu dans les conditions où on vous l'a annoncé. Quel impact ça a eu sur vous dans les premiers jours ?
Les montagnes russes. Les montagnes russes, parce que déjà beaucoup de peur, effectivement. Après, il faut aussi, rassurer son entourage. Parce que du coup, quand on l'annonce, on n'a pas envie que nos parents aient peur, on n'a pas envie que nos amis, nos frères aient peur, etc. Donc, on rassure les autres et du coup, je pense qu'on s'auto-rassure un petit peu en même temps. Mais forcément, ça retombe à un moment donné. Et le soir, c'était compliqué. La nuit, c'était compliqué. Je pense que j'ai plus la notion du temps exactement, mais je pense que les 10 premiers jours ont été compliqués. Il y a des moments où je craquais, je pleurais pendant quelques minutes, et puis après, je remontais un petit peu la pente. Mais en même temps, je pouvais pas dormir la nuit, donc j'étais fatigué. J'étais impatient de voir l'infectiologue pour avoir les réponses à mes questions. On passe par plein d'états différents. C'est vraiment les montagnes russes avec de la peur, de la colère, de la tristesse. Et puis en même temps de l'espoir parce que petit à petit on se renseigne et on se rend compte que ça va aller, qu'on va vivre correctement. Donc voilà, c'est plein d'états différents qui s'enchaînent les premières semaines.
D'accord. Depuis, vous avez appris des choses. Et quelles sont-elles, ces choses ?
Ouais, j'ai appris plein de choses, parce que c'est aussi ça, c'est se rendre compte qu'effectivement, même si on nous en a parlé au collège et au lycée, il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Moi, j'ai appris, c'est trop tard, mais j'ai appris qu'il existait la PrEP, qui est un traitement de prévention. Attention, contre le VIH et pas contre toutes les maladies, infections sexuellement transmissibles, c'est important de le dire. J'ai appris donc qu'il existait ça. J'ai aussi, c'est tout bête, moi le premier, je ne me souvenais plus de la différence entre VIH et SIDA. Et c'est après qu'on m'a dit non, mais attention, tu n'as pas le SIDA, tu es porteur du VIH, c'est deux choses complètement différentes. Ça fait partie des choses importantes. J'ai appris qu'au bout de quelques mois de traitement, on devient ce qu'on appelle indétectable. Et donc, que je ne serai plus dangereux pour les autres, puisque je ne pourrai plus transmettre le VIH en prenant correctement mon traitement. Mmh. Qu'est-ce que j'ai appris d'autre ? J'ai appris plein de choses. J'ai appris que j'allais pouvoir vivre normalement, que j'aurai un traitement toute ma vie à prendre tous les jours. En tout cas, pour l'instant, là où on en est aujourd'hui, c'est ça, la situation est là. Que ce serait juste un cachet à prendre tous les jours. Donc, c'est pas l'enfer, ça se vit très bien au quotidien. C'est les choses principales qui m'ont été dites par mon infectiologue.
Oui, ça vous permet aujourd'hui de savoir, pas comme dans les années 80, comme vous l'avez dit, qu'aujourd'hui, Benoît, vous allez pouvoir vivre normalement. Vous allez même pouvoir vivre vieux si bien évidemment vous êtes rigoureux dans la prise de cette, c'est une trithérapie mais avec un seul médicament aujourd'hui, c'est ça?
Ouais, c'est ça. Alors moi c'est même différent puisque je suis un traitement qui est très récent et aujourd'hui je suis une bithérapie, donc ils essayent d'alléger encore aujourd'hui les traitements. C'est pareil, c'est comme la trithérapie, c'est regroupé sur un cachet, mais avec seulement cette fois-ci deux molécules au lieu des trois de la trithérapie.
D'accord. Comment ça va aujourd'hui, Benoît?
Eh bien, ça va. Ça va parce que je suis bien entouré, parce que mes derniers résultats médicaux sont bons, que je vais déjà être dans la phase indétectable très rapidement. Et ça va parce que j'ai décidé d'en faire quelque chose. Alors, je ne sais pas si positif c'est le bon mot, mais d'en faire quelque chose de constructif dans ma vie. Mmh. En m'informant dans un premier temps et ensuite en partageant, en créant une plateforme et un podcast, en rencontrant d'autres militants. Ce matin, donc aujourd'hui, s'est passé plein de choses pour la journée mondiale de la lutte contre le sida, notamment ce matin à Paris, l'inauguration d'une place des combattantes et combattants du sida, en présence de la maire de Paris, de Lynn Renault également, qui était présente, et de toutes les associations de lutte contre le VIH et le sida. Et donc, c'était pour moi la première occasion aujourd'hui d'aller rencontrer d'autres militants, d'autres séropositifs, et de partager, en fait, parce que ça fait contraste avec les premières heures quand le VIH arrive dans notre vie et qu'on se sent tout seul, c'est une montagne. Et finalement, dans ces moments-là, comme ce matin, on se rend compte qu'on est en fait une armée contre une armée qui va dans la même direction pour la même cause.
Et ça vous permet aujourd'hui, sûrement, quand vous dites d'en faire quelque chose, ça vous donne envie de militer aussi, je suppose, pour les autres. Est-ce que ça a déjà déclenché ça ?
Oui. Moi, en fait, l'idée, c'est que j'ai envie de mettre en place une plateforme et un podcast pour plusieurs raisons. D'abord pour aider, pour accompagner ceux qui vont se retrouver dans le même cas que moi et qui puissent avoir accès à une information simple, claire, pas angoissante et anxiogène, mais aussi pour sensibiliser autour de nous, que ce soit les proches des personnes touchées, mais aussi l'ensemble de la population, parce que, ok, le VIH est connu aujourd'hui, mais très honnêtement, moi, il y avait du monde à la maison ce soir. Personne ne savait que c'était la journée de la lutte contre le sida aujourd'hui.
Oui, je vous avoue
et c'est problématique parce que si même aujourd'hui, le 1er décembre, on ne sait pas qu'il y a cette journée, alors c'est quel jour qu'on va en parler vraiment, quoi. Bon, on n'est pas aidé par le Covid qui a fait de l'ombre au VIH depuis un petit moment maintenant. Mais je pense que c'est important de pas l'oublier parce que on dit effectivement qu'on vit bien avec le VIH aujourd'hui, c'est un fait, on vit bien avec, mais ça reste quand même quelque chose de grave, et si on peut éviter de l'avoir, il faut éviter de l'avoir, quoi. Donc il faut continuer de faire attention, il faut continuer de faire de la prévention, et là-dessus le combat est très très loin d'être terminé.
Très très loin d'être terminé. Est-ce que vous avez l'impression, Benoît, que les jeunes, vous êtes jeune, vous avez 24 ans. Est-ce que vous avez l'impression, parce que moi, mon sentiment, du mot de ma grande cinquantaine, j'ai l'impression que les gens, aujourd'hui, ne se méfient plus, en fait. On a l'impression qu'on a voulu un peu, vous savez, cacher sous le paillasson, comme si ça n'existait plus. Maintenant, en plus qu'il y a des traitements qui sont efficaces, j'ai l'impression qu'il y a eu une certaine facilité à ranger les capotes et puis de se dire que ça n'arrivait plus aujourd'hui, que c'était ça y est, que c'était derrière nous le sida, que c'était vieux.
Ouais, je suis entièrement d'accord. Je pense qu'il y a l'effet on vit bien avec aujourd'hui qui fait qu'on sous-estime. Alors effectivement, c'est moins grave que le sida dans les années 80, c'est clair, on est bien d'accord. En revanche, ça reste quelque chose de pas drôle. Et si on se dit oh, ça va, c'est juste un cachet à prendre au quotidien, non, c'est pas que ça. C'est aussi un traitement qui est lourd, qui a des effets secondaires. C'est aussi des difficultés parfois pour accéder à certains emplois. Mmh. C'est aussi avoir des difficultés à acheter une maison parce qu'au niveau de l'assurance, ça va coûter beaucoup plus cher. Voilà, faut pas le prendre à la légère. Certes, si vous, malheureusement vous êtes amené à être contaminé, et bah, vous allez pouvoir être accompagné au niveau médical et on a de la chance en France, je le dis quand même, d'avoir un système de santé qui fait qu'on débourse pas un euro pour être soigné. Mais ça reste quand même des contraintes au quotidien et toute la vie. Et c'est la possibilité d'avoir des complications médicales aussi, parce qu'on est plus fragile. Donc vraiment, je suis entièrement d'accord sur le fait qu'il voilà, il faut encore être vigilant, il faut en parler vraiment autour de vous, il faut vraiment continuer d'en faire un combat, c'est très très important.
Complètement. Même si, encore une fois, on le rappelle, lorsqu'on apprend comme vous, quand on ne s'y attend pas, hein, quand on apprend qu'on est séropositif, le choc que ça peut fournir et les infos qu'on apprend ensuite qu'aujourd'hui on se soigne, bien évidemment, du sida, ça reste quand même un traitement à vie et une grande rigueur hein, dans ce traitement, parce que il y a quand même, il faut pas l'oublier, il faut le prendre à des heures, je crois, assez précises. Alors à moins que ça se soit amélioré, mais il me semble que c'est quand même...
Non, ça reste encore très précis. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que si on ne prend pas son traitement régulièrement, si on fait l'impasse sur son traitement, eh ben le VIH, lui, va en profiter dans notre corps pour trouver la solution pour lutter contre le traitement. Et à partir de ce moment-là, le traitement est foutu et il faut changer de traitement. Donc ça va, on en a plusieurs aujourd'hui en France, il n'y a pas de souci. Mais ça reste quand même important de faire très attention, parce que c'est pas amusant de changer de traitement tous les 4 matins. Faut s'habituer à un traitement, faut que notre corps s'habitue, faut s'habituer aux effets secondaires. Donc si on peut éviter de changer, c'est bien, et c'est pour ça qu'il faut être hyper rigoureux en fait.
Merci mille fois, Benoît, pour votre témoignage ce soir sur l'antenne d'Europe 1. Bien évidemment, je vous félicite bien évidemment de votre démarche aujourd'hui. On mettra, si vous le voulez bien, les coordonnées de votre podcast hein, aujourd'hui.
Tout à fait, ouais.
À moins que vous vouliez me parler de ce podcast, on peut prendre encore quelques
Ouais, bien sûr. Hein.
Alors, vous restez avec moi, on va laisser passer l'info, et puis vous allez me parler de ce podcast tout de suite après l'info, d'accord ?
Très bien,
à
ça
tout
marche.
De suite. Minuit passé de 7 minutes, vous êtes sur Europe 1. Et si vous nous rejoignez maintenant, chers amis, vous êtes sur votre libre antenne, bien évidemment. Vous pouvez toujours composer le 39 21 50 centimes d'euros la minute. Vous pouvez d'ailleurs le faire dès maintenant, car je vois Florian et Julia qui ne sont avec personne au téléphone. Donc profitez-en, il y a un petit espace là où vous pouvez vous glisser, donc n'hésitez pas. 739-21 pour vos messages, chers amis, 739-21, suivi du mot nuit, écrit en lettres majuscules, suivi d'un espace. Et puis toujours notre adresse mail, je la rappelle, car vous êtes nombreuses et nombreux à être passés par notre adresse mail libreantenne@europe1.fr ou par notre groupe de parole Facebook où vous pouvez vous adresser en message privé à Julia, à Florian, à moi aussi si vous le désirez. Et comme ça, nous vous rappellerons dans les plus brefs délais et nous aurons l'occasion de parler ensemble très bientôt. Benoît, on n'avait pas parlé de ce podcast, vous en avez parlé brièvement, j'aimerais bien savoir ce que vous allez mettre dans ce podcast.
Alors en fait, l'idée c'est de créer un podcast et plus largement une plateforme qui a plusieurs ambitions. C'est à la fois d'accompagner les personnes qui, comme moi, vont être touchées par le VIH et qui se posent des questions quand l'information tombe. C'est aussi informer les proches de ces personnes et le grand public. Et puis, donc donner des explications et lutter contre la sérophobie qui existe encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui, trop de personnes se méfient des séropositifs, trop de personnes ont des a priori. Il y a un sondage qui est sorti, j'ai plus les chiffres en tête, mais c'est quasiment 25% des jeunes de 15 à 20 ans qui aujourd'hui pensent encore qu'on peut transmettre le VIH en se faisant la bise. Donc voilà, c'est toutes ces choses qu'on a envie de transmettre à travers ce podcast, qui va être en fait quelque chose qui va s'appuyer sur mon récit à moi et sur les étapes telles que je les ai vécues, et qui vont nous permettre d'élargir sur tous les thèmes autour du VIH, avec des médecins qui vont participer, des psychologues, des séropositifs, des militants d'associations. Et voilà, l'idée, ça va être de faire une dizaine d'épisodes sur des thèmes différents et en complément sur un site internet et sur des livrets illustrés, retrouver tout ça sous forme de bande dessinée pour pouvoir le distribuer encore plus largement et pourquoi pas, on l'espère, dans les collèges, dans les lycées, au planning familial, à l'hôpital et un peu partout. Voilà, et ça s'appelle Vimon VIH. Pour l'instant, il y a le compte Instagram qui existe depuis hier. Et donc, le financement participatif commence aujourd'hui pour pouvoir financer ce projet qui, je l'espère, va naître très bientôt.
C'est très bien, c'est une très bonne initiative et ça permettra aussi aux futures personnes qui rencontreront cette séropositivité de pouvoir plus vite se familiariser. Hein. C'est un outil aujourd'hui nécessaire de passer par les réseaux sociaux. Merci mille fois, Benoît. Portez-vous bien et puis n'hésitez pas à nous donner des nouvelles, d'accord ?
Avec grand plaisir. Merci beaucoup, Olivier, de m'avoir laissé la parole.
Je vous en prie. Bonsoir, Benoît.